Hi everyone, thanks very much for joining us. And this is the GU ASCO Bayer Ambassador Program meeting. I'm Dr. Steve Yip. I'm a medical oncologist and I work at the Tom Baker Cancer Center. I'm the chair of the Southern Alberta GU Tumor Group, as well as the medical lead of POET. And I'm pleased to be here with Dr. Sebastian Hott. We both attended the 2022 GU ASCO conference from February 17th to the 19th of 2022. And Dr. Sebastian Hott is a medical oncologist in Hamilton, Ontario at McMaster, who has genitourinary specialty. And he'll be discussing with us about the phase 3 ARASENS trial.
Et merci beaucoup, Dr. Yip, pour cette généreuse introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'essai clinique de phase 3 ARASENS, qui est un essai clinique qui a randomisé les patients atteints de cancer de la prostate métastatique qui ont encore une tumeur sensible à l'hormone de testostérone et qui ont été randomisés à recevoir le darolutamide ou un placebo et qui ont tous reçu la docetaxel. Alors, en fait, c'était un assez grand essai de phase 3 où 1300 patients furent randomisés à recevoir le darolutamide, la dose d'Aramis, alors de 600 mg deux fois par jour, plus des injections, ou recevoir le placebo deux fois par jour. Tous les patients ont reçu jusqu'à 6 doses de docetaxel. Le premier patient fut randomisé en novembre 2016 et le dernier patient en juin 2018, qui fait que le suivi est quand même assez long, de 42-43 mois, alors presque 4 ans. L'objectif primaire est un objectif quand même très valide et important, qui est la survie globale. Et puis, les patients étaient stratifiés à deux items. Le premier qui est le plus important, dans le fond, qui était le montant du taux de maladie avec le M1A, M1B et M1C. Alors, on en parlera dans cette diapo ici. En fait, de démographique, les patients avaient quand même beaucoup de tumeurs. Alors, 80% avaient un stage métastatique de M1B, qui signifie qu'elles avaient des métastases aux os, et 17-18% avaient des métastases viscérales, alors au foie, au poumon. Et seulement 2-3% avaient des ganglions lymphatiques métastatiques non régionales. Alors, vous voyez ici, l'hypothèse primaire est que le darolutamide a, de façon très significative, réduit le taux de mortalité par environ un tiers. La survie moyenne n'a pas été encore rejointe avec le darolutamide et environ 4 ans. Avec le placebo. Et puis, si on regarde au taux de survie à 4 ans, à 48 mois, 63% des patients qui ont reçu la darolutamide étaient encore en vie, comparativement à 50%. Alors, ça nous donne environ une différence absolue de 13 à 15%. Et puis, le nombre à traiter pour augmenter un patient de survie et d'environ 7 à 8 patients, qui est quand même assez cliniquement très important. Ce résultat est vu indépendamment de plusieurs patients qui ont reçu des traitements subséquents. Alors, on voit chez les patients qui ont reçu le placebo, la majorité ont reçu soit la bérotérone ou ou l'Xtandi. Un nombre quand même assez important ont reçu aussi la chimiothérapie comme le cabazitaxel ou la docetaxel. Et ça de façon plus importante que les patients qui ont reçu la doralutamide. Ce qu'on veut toujours voir quand il y a un essai clinique positif, surtout au sujet de la survie globale, c'est de voir que les sous-groupes ont aussi les mêmes résultats. Et on peut voir ça ici que, dans le fond, il y avait plusieurs sous-groupes qui ont été regardés, qui ont été adressés, et puis tous ces sous-groupes favorisent le darolutamide. Si on s'apprête, si on se concentre un petit peu sur quelques sous-groupes, alors le montant de maladies, alors le M1, MB, M1A, M1B et M1C, on voit quand même que même les patients qui ont des métastases aux os seulement ou des métastases viscérales reçoivent le bénéfice de recevoir la darolutamide après ou avec la docetaxel. Ce qu'on voit aussi chez le stage au diagnostic initial, alors les patients qui sont diagnostiqués de nouveau avec une maladie métastatique ont certainement un avantage de la darolutamide. Et on voit aussi que les patients qui ont une récurrence, qui ont une récidive, ont un montant de survie, d'amélioration de survie qui est quand même aussi important, qui semble aussi important que ceux qui sont diagnostiqués de nouveau avec une maladie métastatique, qui est quand même assez important parce qu'il y a des discussions qui se font, que les patients qui ont une récidive de maladie en fait de première présentation métastatique ont souvent une survie qui est meilleure et un prognostic qui est meilleur et ont peut-être moins besoin de cette intensification et ce n'est pas ce que RASENS nous suggère. Il y a toujours un gros nombre d'objectifs secondaires et on peut voir avec cette diapo que le temps d'avoir une maladie résistante à la castration ou le temps à recevoir une autre thérapie antinéoplastique est amélioré d'environ 2/3 si on reçoit une darolutamide avec le docetaxel que si on reçoit le docetaxel seulement, mais aussi d'autres objectifs secondaires importants pour le patient, comme le temps à avoir une augmentation de la douleur ou un temps à avoir un problème squelettique symptomatique a aussi été amélioré par la darolutamide. Aramis nous a montré ou nous a suggéré que darolutamide a très peu de toxicité comparativement au placebo. Et puis, on voit chez ces patients qui sont quand même probablement un peu plus malades, on voit un taux de toxicité qui est quand même très semblable à ce qu'on voit à Aramis et qui est aussi très semblable aux patients qui ont reçu le placebo. Alors, aucune surprise en fait de la toxicité chez les patients qui ont reçu la darolutamide, même s'ils ont une maladie un peu plus avancée et s'ils ont reçu la docetaxel auparavant. Alors, les conclusions de Matt Smith étaient que la darolutamide en combinaison avec les injections d'hormones et la docetaxel devrait être un nouveau standard pour le traitement des patients qui sont atteints du cancer de la prostate métastatique, quand même assez encore sensible à la manipulation hormonale. Et puis vraiment, ma perspective, c'est que oui, ça, je crois que la thérapie triplette de l'injection de la docetaxel et d'un médicament anti-hormonal comme le darolutamide devrait être considéré, au moins chez les patients qui sont choisis de façon sélective et qui sont capables ou qu'on prévoit qu'ils seraient capables de recevoir les tablettes et la chimiothérapie. Cependant, je crois qu'on a besoin d'un peu plus d'informations avec ARASENS au sujet de quels patients qui ont le plus de bénéfices et une analyse en fait du montant de maladie comme qu'on a vu chez Charted et Latitude et comme on voit aussi chez Peace One, avec Peace One, devrait être entreprenu et je crois que j'espère que ça va être fait dans les prochains mois et que ça va être présenté. Cependant, le fait est que l'intensification, même avec un double thérapie, est encore très non commun. Moins que 50% des patients dans des présentations ou dans des analyses de vraie vie reçoivent une intensification. Alors, de croire ou d'espérer que trois traitements vont être reçus chez la plupart des patients peut être difficile à voir. N'empêche, cependant, ça supporte vraiment que ces résultats supportent ce qu'on a vu avec Peace One. Je crois que l'addition d'une de ces tablettes anti-hormonales à la docetaxel est certainement meilleure que la docetaxel par elle-même. Ce qui est moins clair, c'est que si on ajoute la docetaxel à une tablette, si on voit le même montant de bénéfices, et on peut suggérer, comme c'est là, avec Enzamet ou avec Titan, où est-ce que une proportion des patients avait reçu la docetaxel soit avant avec Titan et seulement 58 patients, alors très peu du nombre complet. Et Enzamet, qui était complètement en même temps que l'enzalutamide, et environ 40 à 50 %, ces patients ne semblent pas avoir le même montant d'amélioration de la survie globale s'ils reçoivent les trois thérapies que s'ils en reçoivent seulement deux. Alors, l'injection et l'enzalutamide. Alors, c'est un petit peu plus quelque chose à discuter avec nos patients et puis à choisir le bon traitement pour le patient qui est en avant de toi et d'individualiser. Et sur ça, je vous remercie et je pense que j'ai fini.
Thanks very much, Dr. Hutt. I appreciate your insights and you pretty much answered most, I think, burning questions around this abstract. And you touched upon the interesting landscape that we see where, you know, we're having the results of this trial as well as Peace One largely showing the added benefit of an ARAT2 docetaxel being considered a standard of care, but largely it's the opposite way that we think of things now in the current landscape, where more patients are receiving ARAT as a standard of care, and we're wondering if we should intensify. Do you have any thoughts around why it is that we're seeing other trials like Enzamet and Titan not showing nearly as much of a signal that we'd hope to see when the two are combined, when, you know, the patients are having at baseline ARAT plus ADT plus or minus chemo, rather than the opposite way around with the design of this trial as well as Peace One?
Well, the easy answer is no, I don't know, because those trials have not been done and have not been reported, at least in a pragmatic, a priori situation. I think, you know, one can think of a few reasons. One is that the androgen receptor blockers may be more potent, and then you end up having a minimal impact of docetaxel. And the docetaxel, you know, certainly Charted showed us is quite potent, but perhaps not quite as much as some of the ARATs. I think what's goes against that is, you know, that Eric Small slide that he said, you know, never do, but everybody does, of putting both latitude and charted on top of one another, and showed very similar curves of men treated with abiraterone and men treated with docetaxel in the charted and the latitude trials. This said, I think we don't have those head-to-head comparisons to really tell us. I think the other thing was that, firstly, I don't think we can tell a lot from Titan. You're looking at 60 patients, and I think one cannot and should not draw conclusions out of such a small sample size. And then Enzamet was a little bit different. Enzamet looked at docetaxel given concurrently with enzalutamide, and the toxicity profile was significantly worse in that population. And that might have led to some patient having dose reductions or even stopping treatments like enzalutamide or docetaxel or both. And that could have impacted on a potential survival impact. But at the end of the day, nobody knows.
Exactly. I absolutely agree. And with regards to your comments that you see this as practice changing, how do you see this directly influencing your clinical practice, and how could it pragmatically be implemented by other clinicians who treat advanced prostate cancer in this field, medical oncology, urology in particular, as well as radiation oncology in some circumstances, who see this patient population?
Yeah, I think Aerosense did not look at disease burden, as I mentioned earlier, but Piece 1 did, and Piece 1 suggested that the main impact, if not the only impact, was seen in men with higher burden of disease. So I would hope, and I would think that at least the majority of those patients with high burden of disease should be referred to medical oncology, or at least discussed in a multidisciplinary setting. And if they're candidates for docetaxel, then have that conversation that we know that the two are better than docetaxel alone. We don't really know the reverse, but if I have a man that's in his 50s or 60s with Gleason 9-10 disease, some worrisome features, PSA is not quite as high as their disease burden would suggest. That I think these men should really be considered and likely recommended to have a triple therapy intensification.
Yeah, I think that it'll be interesting to see how it is implemented across the nation. I think overall, the major question is, how does this impact the overall standard of care? We do have to apply the art of medicine in selecting those patients wisely. And I think that, as you mentioned, we need to be mindful that chemotherapy is something that we have experience as medical oncologists. So it's great if we can at least weigh in from a multidisciplinary discussion. But ideally, you know, having this thought of and giving patients the benefit of, at the very least, the consideration of this treatment. How do you find the possibilities of patients who perhaps might have already been seen by another multidisciplinary specialist who might have initiated ADT plus or minus an ARAT, and they're already on that course, and the possibility of introducing chemotherapy afterwards obviously doesn't exactly adhere to this trial, but just thinking of things from a pragmatic perspective, you know, a lot of us are a little bit cautious, even with chemotherapy alone, not immediately throwing 100% dose at a person. How do you think that you'd approach those clinical scenarios?
Yeah, I think that's, again, when you're starting to delve into the art of medicine and the pragmatic aspect of oncology. If I was a purist, I'd say, well, I really don't know how to treat those men, because the data is not based on these presentations. However, I tend to wait a little bit before I start the docetaxel anyways when an ADT is started, because we know that the first month or two of ADT does usually pretend to slightly worse toxicity in for docetaxel. And I think it's fairly much the same. So if the patient comes in and has had a month or two of an ARAT and have all of these less positive features or concerning features that we talked about, I still would have no concerns in at least having a conversation about adding docetaxel. Now, it's still not yet funded. I think, you know, docetaxel is fairly cheap and it's becoming a lot more easy to receive in many provinces. In Ontario, I think it's going to be, or it is delisted. And so I think there's a little bit more laxity in us being able to give it. But I still think that that will be also dictating what we can and cannot do as to with regards to whether it is funded or not in your province.
Certainly. Yeah, well, appreciate your insights. Thanks again, Dr. Hott. And thank you again for joining us for this discussion around this potentially clinically practice-changing trial that at the very least begs the question of considering your patient for this potential treatment. Thanks very much. Have a good evening.
Thank you very much. Thank you.